Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 8 Bahman, 1401 du calendrier iranien, 28 janvier 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'opération Rotz est une riposte aux exactions des sionistes. L'incident contre l'ambassade de République d'Azerbaïdjan à Téhéran n'était pas un acte terroriste et avait des motifs personnels, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Profanation du Coran, des Iraniens se rassemblent à travers le pays. Et au moins 7 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une fusillade à Quds occupée par Israël. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. La République islamique d'Iran affirme que ses conclusions montrent que l'attaque meurtrière à l'ambassade d'Azerbaïdjan à Téhéran n'était pas liée au terrorisme, mais plutôt motivée par des intentions personnelles. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, a souligné que de tels incidents ne sont pas nouveaux, évoquant des attaques similaires contre des diplomates iraniens au Royaume-Uni, en Chine et en Irak ces dernières années, ainsi que l'assassinat de l'ambassadeur de Russie en Turquie en 2016. Le diplomate iranien s'est également entretenu au téléphone avec son homologue azerbaïdjanais, Ceyhun Bayramov. Amir Abdullahian a mis en garde contre les complots des ennemis des deux parties visant à profiter de l'incident à des fins intéressées et à nuire aux relations entre Téhéran et Bakou. Pour sa part, Ceyhun Bayramov a salué la proposition d'Amir Abdullahian pour une enquête conjointe sur la fusillade. Des dizaines de milliers d'Iraniens sont descendus dans les rues de la capitale iranienne Téhéran et d'autres villes du pays pour protester contre la profanation du noble Coran en Europe. Après la prière du vendredi, les fidèles se sont rassemblés à travers l'Iran et ont scandé des slogans condamnant la profanation du noble Coran. Les participants ont qualifié cet acte ignoble d'incitation et de provocation grave aux opinions et croyances de plus de 2 milliards de musulmans à travers le monde. Ils ont appelé les autorités européennes à mettre fin aux hostilités contre l'islam. Quelques 5,9 milliards de dollars d'investissements étrangers ont été obtenus dès le début du gouvernement du président Raisi, soit une augmentation de 2,5 fois par rapport à la dernière année du précédent gouvernement, annonce l'organisation iranienne d'investissement. Depuis le début du 13e gouvernement, celui du président Raïsi, 338 plans d'investissement ont été approuvés pour un montant de 10,2 milliards de dollars. Et dans ce gouvernement, nous avons eu 463 millions de dollars d'augmentation de capital approuvé, ajoute la source. 5,9 milliards de dollars ont été mis en œuvre sur un total de 10,2 milliards de dollars d'investissement, a encore annoncé l'organisation iranienne. Au cours de l'année écoulée, le plus grand investisseur étranger en Iran a été la Russie, avec un montant de 2,7 milliards de dollars dans deux projets pétroliers, et les Émirats arabes unis, la Turquie, la Chine et l'Afghanistan ont respectivement été les autres plus importants investisseurs en Iran. L'investissement de la Russie se présente sous forme de contrats à long terme. Les Russes n'ont pas l'intention d'annuler les contrats avec l'Iran, précise la source. Au moins 7 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une fusillade à Rots occupée par Israël. Selon les sources israéliennes, le tireur a été abattu. Les médecins disent que certains des blessés sont dans un état critique. Les médias israéliens imputent l'incident à un résident palestinien de la partie orientale de Rots, mais il n'y a pas encore de revendication de responsabilité. Cette fusillade intervient en effet au lendemain de la mort de 9 Palestiniens dans un raid des forces armées israéliennes dans le camp de Jenin, ville du nord de la Cisjordanie occupée. Un 10e Palestinien a été tué jeudi par des tirs israéliens à Al-Ram, près de Ramallah, selon le ministère palestinien de la Santé. En représailles, des roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza, sous blocus depuis 2007. En réaction au raid meurtrier israélien à Jenin, l'autorité palestinienne a décidé de mettre fin à la coopération sécuritaire avec Israël, une première depuis 2020. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a salué l'attaque. Le mouvement affirme qu'il s'agit d'une réponse naturelle au raid sanglant mené jeudi par Israël contre le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie occupé. Il a déclaré que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou paierait le prix de toute nouvelle erreur que Tel Aviv pourrait commettre. Le djihad islamique de la Palestine a également salué l'opération, la qualifiant de courageuse et a annoncé son soutien total aux Palestiniens qui résistent au régime israélien. L'attaque est une réponse naturelle et évidente à la présence du régime de Tel Aviv en terre palestinienne et à ses atrocités contre les Palestiniens. Les brigades Al-Quds ont déclaré que l'opération témoignait de l'unité entre les groupes de résistance. Réagissant aux évolutions, le mouvement yéménite Ansar Allah a déclaré que les crimes israéliens ne peuvent que déstabiliser de plus en plus le régime en déclin d'Israël. Pendant ce temps, Israël a annoncé qu'il avait arrêté 42 personnes dans le cadre de l'opération. Selon les médias palestiniens, lors d'un autre incident, un colon israélien a ouvert le feu sur les Palestiniens dans la ville de Beïta, en Cisjordanie occupée, blessant au moins 5 personnes. Le régime israélien continue à réprimer les Palestiniens dans plusieurs villes de la Cisjordanie occupée. Les Palestiniens sont en colère contre le raid meurtrier du régime sioniste dans le camp de réfugiés de Jenin, au cours duquel des dizaines de leurs compatriotes ont été tués ou blessés. Selon le Croissant Rouge palestinien, 54 personnes ont été blessées dans la ville de Beïta, au sud de Naplouse. Leur rapport précise que les blessures avaient été causées par des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Réaction à l'opération Rotz, qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les sionistes, les mouvements de résistance palestiniens, Hamas et Djihad islamique, ont annoncé vendredi soir, 27 janvier, que cette opération vengeait le sang des martyrs de Jenin. Le porte-parole du Hamas, Abdel Latif Al-Kanou, a déclaré que l'opération héroïque de Rotz était le prélude à la réponse aux crimes des sionistes, dont le premier en date a été commis dans le camp de Jenin. Elle représente le consensus palestinien dans la résistance à l'occupation et la défense de la terre et des lieux saints. Cette opération montre l'incapacité du régime d'occupation à affronter les forces de résistance, a-t-il ajouté. Un autre porte-parole du Hamas, Hazem Rassem, a également déclaré que l'opération Rotz avait été menée en représailles aux crimes des sionistes dans le camp de Jenin. D'autre part, le porte-parole du Djihad islamique, Tariq Ezzedine, s'est félicité de cette opération héroïque. L'ennemi ne comprend que le langage de la force, a-t-il indiqué. Le Front démocratique pour la libération de la Palestine, FDLP, a également déclaré dans un communiqué : Nous félicitons le peuple palestinien de l'opération Rotz et confirmons que ce n'est que le coup d'envoi à une nouvelle phase de la résistance globale populaire. Les Palestiniens sont descendus dans la rue dans différentes villes, dont Rotz, Jenin, Naplouse et la bande de Gaza, pour exprimer leur joie. Vendredi soir, un Palestinien, qui selon la police du régime d'Israël est l'un des résidents du camp de Shuafat, situé à Rotz oriental, s'en est pris aux sionistes dans le quartier d'Al-Nabi Yaqub, situé à Rotz Nord. Au moins 7 d'entre eux ont été abattus et 10 autres blessés, dont certains se trouvent dans un état critique. Suite à la nouvelle opération Martyr, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exigé une réunion de sécurité avec les hauts responsables de la sécurité du régime sioniste. Le journal israélien Yediot Ahronot a entre-temps rapporté que l'auteur de la récente opération anti-sioniste tuée par des soldats israéliens était membre des brigades des martyrs Al-Aqsa. La police et les forces de sécurité israéliennes sont arrivées sur les lieux de l'incident 20 minutes après le début de la fusillade, selon les médias israéliens. Les brigades des martyrs Al-Aqsa a indiqué que tous les combattants du groupe de résistance étaient en état d'alerte dans toute la Palestine occupée. L'opération de représailles palestinienne survient le lendemain du raid israélien mené dans le camp de réfugiés de Jenin, qui a causé 11 morts en martyrs palestiniens et 20 blessés. La situation dans les territoires occupés, en particulier en Cisjordanie, est ces derniers jours sensible et les combattants palestiniens répondent aux innombrables crimes des sionistes par tous les moyens.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, l'effet domino se poursuit en Afrique. En effet, après le Mali, c'est le tour de Burkina Faso d'exiger et donc le retrait des troupes françaises de leur sol. En effet, après d'importantes manifestations à travers tout le pays, ils ont un mois pour quitter le pays. Et justement, la France a rappelé son ambassade de Burkina Faso, ce qui a été bien sûr refusé par les autorités de Burkina Faso. Nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Les autorités du Burkina Faso ont confirmé avoir demandé le départ des troupes françaises basées à Ouagadougou dans un délai d'un mois. Suite à cette annonce d'Ouagadougou, Paris a rappelé son ambassadeur. Après plusieurs échecs du gouvernement français en terre africaine, l'effet domino se poursuit de manière attendue. Désormais, suite aux revendications populaires, c'est au tour des autorités du Burkina Faso d'officialiser la demande de départ des troupes françaises du sol national. Le système néocolonial de la France-Afrique semble définitivement en chute finale. Cette demande d'Ouagadougou est faite alors que l'ex-puissance coloniale ne souhaite toujours pas perdre sa sphère d'influence dans les anciens pays colonisés. Ce jeudi 26 janvier, le ministère français des Affaires étrangères a rappelé son ambassadeur au Burkina Faso pour mener des consultations au lendemain de l'annonce de départ des forces spéciales françaises du pays d'ici un mois. Dans le contexte des derniers développements intervenus au Burkina Faso, nous avons décidé de rappeler notre ambassadeur à Paris pour des consultations sur l'état et les perspectives de notre coopération bilatérale, a expliqué à l'AFP le ministère. Lundi, le gouvernement burkinabé a dénoncé l'accord de 2018 relatif au statut des forces françaises présentes dans ce pays. Cette dénonciation a été formellement remise mardi au ministère des Affaires étrangères. C'est ce qu'a annoncé mercredi le Quai d'Orsay. La France respectera les termes de cet accord en donnant suite à cette demande, a-t-il également ajouté. En décembre, le gouvernement burkinabé avait demandé à Paris le remplacement de l'ambassadeur Luc Halad, lui reprochant d'avoir fait état publiquement de la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays en proie aux violences terroristes. Les relations entre le Burkina Faso et son ancien colonisateur, la France, ont été tendues à la suite de deux coups d'état militaire l'année dernière, alimenté en partie par l'incapacité d'autorité à protéger les civils contre les groupes terroristes dans le nord du pays. Suite à l'annonce par l'autorité burkinabé de l'exigence pour les troupes françaises se trouvant au Burkina Faso de quitter le pays dans un délai d'un mois, le président hexagonal Macron avait demandé des clarifications. Des clarifications désormais obtenues, le gouvernement du Burkina Faso confirme avoir demandé le retrait des troupes françaises.
Et bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau M. Bernard Cornu, expert des questions internationales qui est avec nous depuis Vaucluse. Monsieur Cornu, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'accorder votre temps à cette émission. Alors, ma première question va s'adresser à vous, M. Cornu, avant de joindre M. Luc Michel tout à l'heure. Alors, il est bien question du retrait des troupes françaises de Burkina Faso après donc celle du Mali. Et bien sûr, la France pense que le fait d'avoir des troupes sur le sol Burkina Faso permet de lutter contre le terrorisme et les djihadistes. Que pensez-vous, je vous prie?
Le volume des troupes qui étaient présentes au Burkina Faso est beaucoup moins important qu'au Mali, où il y avait des bases entières très bien équipées, et donc qui sont désormais parties, évacuées. Donc c'est peut-être moins grave, mais c'était une sorte d'épidémie de protestation contre la France pour le manque d'efficacité de cette présence militaire pour lutter contre le djihadisme. Je crois que d'une part, cette situation, ce climat, ce contexte semi-désertique ou de savane au sud, fait qu'il est difficile à des troupes venues de France de bien maîtriser le terrain, de bien maîtriser la qualité des équipements adaptés. Et surtout, je pense, moi-même, pour mon expérience du Maghreb et de l'Afrique noire, que le financement du djihadisme vient surtout, ou l'opportunité du djihadisme vient surtout des contrebandes, et qu'il vaudrait mieux une coopération sur la gestion des frontières, sur la gestion des taxes aux frontières, pour limiter ces financements occultes par les contrebandes. Les contrebandes génèrent de la corruption et donc des trafics non seulement de carburant, qui sont beaucoup moins chers au nord ou au Nigeria qu'au Sahel même, et des contrebandes d'armes, des contrebandes de drogue, des contrebandes de migrants et tout ça. Donc c'est cette situation de contrebande et de corruption rampante à cause de ces trafics sur lesquels il faudrait lutter. Plutôt qu'assurer une présence militaire armée comme elle a été mise en place par la France dans le cadre des accords des opérations Barkhane et Sabra.
Absolument, merci. Alors un grand bonjour à Monsieur Luc Michel qui est avec nous depuis Bruxelles. Monsieur Luc Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à Monsieur Cordu et à toute votre équipe.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous parlons bien sûr du retrait des troupes françaises de Burkina Faso. Et l'expérience a montré, Monsieur Luc Michel, que la présence des troupes françaises dans un pays africain n'est pas pour lutter contre le terrorisme, mais plutôt pour piller la richesse et affaiblir militairement et économiquement le pays. Que pensez-vous ?
Écoutez, ce qu'on appelle le terrorisme, c'est comme la piraterie. Ce ne sont pas les ennemis des armées occidentales, mais leurs auxiliaires. S'ils permettent l'ingérence des Occidentaux, la France, par exemple, s'est ingérée au Mali, au Burkina Faso, grâce à des opérations soi-disant antiterroristes. Il y a deux choses à faire remarquer. Tout d'abord, c'est que les Français ont fait une erreur, c'est de croire à leur propre propagande. La propagande française, elle est confiée à des généraux, notamment le général Yanis et le Centercom, et ils disent que le sentiment anti-français en Afrique est un sentiment artificiel créé par la Russie. C'est tout à fait faux. En réalité, c'est une vague de faux dans la jeunesse de la population qui a la haine de la France. La seconde chose, évidemment, c'est que vouloir renforcer des opérations militaires qui soulèvent la colère de toute la population, ça ne peut pas marcher. La France est donc engagée dans une impasse. Tout cela a commencé lorsque les Russes, à partir de 2016, ont commencé à s'ingérer en Afrique et ils ont chassé les Français pays par pays. C'est un effet de domino.
Absolument. Monsieur Bernard Cornu, votre réaction, je vous prie. Depuis quand la France a perdu son influence et son panache en Afrique ?
Depuis la fin de la colonisation, certainement, qui a été remplacée par des coopérations économiques qui parfois ont été bien étudiées, bien mises en place. Mais je pense, par mon expérience aussi, qu'il y a eu souvent des abus. J'ai cité ma mission au Mali, où les Maliens m'ont dit, vous connaissez mieux, après une semaine, notre situation énergétique au Mali, que le représentant de la grande société publique française, EDF, qui est là depuis des années. Donc, je pense que la coopération française n'a pas toujours été bien adaptée et que cela a provoqué des rancœurs, parfois peut-être des systèmes de corruption. Ça a dû se passer dans certains pays, que je ne veux pas citer, mais c'est des cas précis. Je pense que ce problème se complète des pays africains et se complète maintenant par un certain rejet de la France par les gouvernements en place et aussi par une population, parce qu'il y a eu des abus. Je pense que tout n'a pas été mauvais dans la coopération, mais il y a eu parfois des abus, des choses qui ont été faites pour des intérêts purement financiers ou des intérêts occidentaux et non pas dans l'intérêt des populations. C'est une tâche difficile que coopérer avec un pays dans des situations, des contextes climatiques, agricoles, économiques, qu'on ne connaît pas toujours bien, qui sont celles du pays, et c'est difficile de s'adapter. Donc je comprends qu'il y ait eu des abus, qu'il soit perçu qu'il y a des abus, et que la population envie de changer ou en tout cas diversifier ses partenaires, puisque la France était le partenaire principal de toute l'Afrique francophone pendant des décennies, depuis la période d'indépendance des années 60.
Monsieur Luc Michel, est-ce que vous partagez l'avis de Bernard Cornut qui porte
non,
bien sûr des habits?
Je ne partage pas du tout cette opinion. Et c'est une fausse analyse du néocolonialisme français. De 1960, les indépendances, jusqu'en 2015, les Occidentaux et les Français sont tout puissants en Afrique. Mais il y a un choc psychologique qui est la destruction de la Libye. Et il y a l'organisation de la jeunesse panafricaine dans tous les pays d'Afrique francophone, par la grande télévision Afrique Média, à laquelle je participe. Afrique Média, c'est 120 millions de téléspectateurs. Par exemple, France 24, ça représente 79 millions de téléspectateurs. À partir de 2015, les Russes sont venus apporter leur savoir-faire, leur expérience sécuritaire et économique. Et donc, ils ont aidé les masses panafricaines à se retourner contre la France. Le sentiment anti-français, moi je vais en Afrique depuis 40 ans, eh bien, il n'existait pas avant 2015. On a été critiqués envers la France-Afrique, mais on n'haïssait pas la France. Depuis 2015-2016, la France, c'est l'ennemi. Elle est en train d'être chassée de toute l'Afrique. Le troisième phénomène, il est dû aux États-Unis. À partir de 2006-2007, la création de l'Africom, les États-Unis sont décidés à remplacer les Français dans le prix carré français et à délocaliser la France en mer Rouge et dans la Corne de l'Afrique. À partir de ce moment-là, la France, elle est prise entre trois mâchoires d'un étau, la Russie, les États-Unis et les panafricanistes.
Et justement, M. Luc Michel, en effet, des pays africains tels que le Mali et le Burkina Faso, une grande crainte de la France est celle que ces pays-là choisissent un autre partenaire important, dont la Russie. Que pensez-vous?
Écoutez, la France, la peur, elle est justifiée. Elle est justifiée en sentiment, mais elle n'est pas justifiée diplomatiquement. Ce n'est pas la France qui doit décider quels alliés ont les pays africains. Des présidents comme toi, des Rawassimi Goïta, eh bien, ils déclarent eux-mêmes qu'ils ne veulent pas nécessairement abandonner la collaboration avec les Français, mais qu'ils ont le choix de leurs partenaires militaires. Or, la France, avec ses alliés allemands et américains, a déclaré que si une alliance était faite avec la Russie, ils allaient quitter la Centrafrique, le Mali et le Burkina Faso. Pour la Centrafrique et le Mali, c'est déjà fait, évidemment. Les Africains refusent tout cela, d'autant plus qu'ils sont soutenus médiatiquement par le courant anti-français en Afrique, notamment Afrique Média.
Oui, Bernard Cornut, votre réaction, je vous prie. Est-ce que cet effet domino va poursuivre dans les pays africains ou ça va s'arrêter au Burkina Faso? Car le peuple Burkina Faso ne veut rien savoir d'une présence étrangère, que ce soit française ou autre.
Alors, d'accord avec certains points.
Vraisemblablement, notre liaison avec M. Bernard Cornut est coupée. Nous allons nous adresser à M. Luc Michel. M. Luc Michel, est-ce que vous voulez bien poursuivre concernant le retrait des troupes françaises du Burkina Faso, je vous prie?
Oui, c'est un effet domino qui a commencé en Centrafrique et au Mali et qui va se continuer. Il y a maintenant des manifestations anti-françaises au Tchad, par exemple, ou en Guinée équatoriale, et nous ne parlons pas du cas du Cameroun. Je connais très bien le dossier parce que je ne suis pas un observateur, mais un acteur. À partir d'Afrique Média, je soutiens les jeunes maliens, les jeunes burkinabés, les jeunes centrafricains, et je suis très populaire dans ces pays. Le sentiment anti-français est massif, et des mouvements anti-français pro-russes, comme Yerewolo au Mali, les camarades, nos camarades qui sont guidés par la députée malienne Amina Fofana, qui est une amie, eh bien, ces mouvements, ce sont des mouvements pro-russes. Ils s'appuient sur une nouvelle génération de militaires qui souvent ont été formés en URSS et qui ont remplacé les militaires pro-français formés à Saint-Cyr, à Paris, etc.
Monsieur Luc Michel, revenons au Mali, je vous prie. Vous vous rappelez qu'on disait qu'avec 8 ans de présence française au Mali et la présence russe pendant seulement 2 mois après donc, le retrait des troupes françaises. Ils ont tué plus de terroristes qu'ils ont tué en plus de 8 ans les troupes françaises. Alors, que cela veut dire? Est-ce que cela ne veut pas dire que la présence française au Mali, au Burkina Faso, c'est un prétexte pour piller la richesse de ce pays?
C'est évidemment un prétexte. Au Mali, en 8 ans, ils ont eu 57 morts. Les Américains au Vietnam, dans la même période, 1960-1968, ils ont eu 100 000 morts. Les Français, entre 2012 et 2020, ont eu 57 morts. C'est une farce et une comédie. Évidemment, les Russes, eux, ont aidé à dégager le Mali. Il y a la même chose en Centrafrique. Les Français sont présents en Centrafrique depuis 2007. Ils n'ont jamais empêché les guerres civiles. Et ils ont livré le pays aux seigneurs de la guerre et aux islamistes de la Séléka. La Séléka qui veut dire la base Al-Qaïda en arabe. En six mois, entre janvier et juin 2021, les paramilitaires russes avec les FACA, ils ont libéré la totalité du territoire centrafricain et rendu la maîtrise de son pays au président Antoine Deira. Le premier ministre centrafricain hier, d'ailleurs, a souligné cela. Il a dit qu'en 6 mois, les Russes avaient libéré la Centrafrique.
Bernard Cornu, votre réaction, je vous prie, est-ce qu'on peut donc parler de la fin de la présence française dans toute l'Afrique?
Disons, certainement pas la fin, mais un affaiblissement et sans doute une reconcentration sur certains pays dans lesquels la France a des relations assez profondes, assez anciennes et des intérêts conjoints, notamment au Niger.
Oui.
Sans doute au Niger.
Oui. Poursuivez, je vous prie.
Sans doute au Niger, mais il y aura certaines diversifications. Mais ce qui est important, c'est que l'Afrique et les pays africains, l'Union africaine, s'organisent pour pouvoir coordonner les efforts de coopération, mettre en concurrence les différents empires industriels et financiers qui cherchent maintenant à s'implanter pour les nouvelles ressources minérales stratégiques de l'Afrique, liées au développement de véhicules électriques, des batteries, de tout ce qui est informatique aussi, et donc je pense que c'est important que l'Afrique s'organise, les pays africains s'organisent, se coordonnent. C'est d'ailleurs ce que voulait faire le président Kadhafi, et c'est sans doute pour cela que les pays occidentaux, enfin la France, les États-Unis, l'Angleterre, ont cherché à déstabiliser la Libye et à éliminer Kadhafi.
Monsieur Michel, est-ce que vous partagez l'optimisme de Monsieur Bernard Cornu?
Je pense que les Français vont partir pays par pays. C'est un effet domino. Et en réalité, la Russie est présente aujourd'hui militairement dans 14 pays. Elle est présente industriellement. On a par exemple l'exemple du Tchad, où il y a des accords militaires avec l'armée tchadienne, et où la régie russe de l'électricité du nucléaire Rosatom est en train d'électrifier le Tchad. Je pense que partout, évidemment, les anti-français sont en train de s'organiser. Ils sont passés de Centrafrique au Mali, du Mali au Burkina Faso. Il y a un mouvement anti-français, qui est un mouvement anti-Bazoum, qui est une créature des Occidentaux. Et l'Union africaine n'a rien à voir là-dedans. Elle est dirigée, elle est aux mains de l'Union européenne, qui la finance à 84%. Il est dirigé par des créatures occidentales, comme l'était le président Tshisekedi. C'est la fin de la France. Le danger pour la France, d'ailleurs, ce n'est pas tellement actuellement les panafricanistes, ce sont les anglo-saxons, américains et britanniques. Le Brexit a des conséquences en Afrique. En janvier 2009, il y a eu une conférence économique à Londres, Grande-Bretagne, Afrique, où l'invité d'honneur était le président du Nigeria, Buhari. Et celui-ci, on lui a clairement dit qu'il devait céder les marchés français aux anglo-saxons. La France, elle est coincée, comme je vous l'ai dit, dans la triple mâchoire d'un biais. D'autant plus qu'elle réagit très mal et qu'elle croit à sa propagande. C'est-à-dire qu'elle mise tout contre la Russie, alors qu'elle ferait mieux de se méfier des Américains.
Bernard Cornu, votre réaction, je vous prie.
Ah, je suis d'accord avec ça. On ferait mieux de s'allier à la Russie pour des marchés internationaux et à d'autres pays européens plutôt qu'avec les États-Unis qui sont très puissants par leurs dollars et par leurs armements, par leurs menaces, par leur pouvoir diplomatique aussi. Et donc, il faut beaucoup plus se méfier des États-Unis et on aurait plus intérêt à coopérer avec la Russie, avec d'autres pays européens pour faire un partenariat équilibré avec l'Afrique, avec les pays africains. Ça, je suis d'accord avec cela.
Oui, mais tout de même, M. Bernard Cornu, la France, pendant plusieurs années, a tout essayé pour empêcher de se retirer du Mali, par exemple. Mais cette fois, est-ce que ça va être la même chose ou ça va être donc immédiatement, avec le un mois que les autorités de Burkina Faso ont exigé des troupes françaises de partir, va être opérationnel?
Non, mais c'est vrai que dans les discussions, il y a eu des coups d'État au Mali et au Burkina Faso, et disons, les nouveaux pouvoirs ont voulu mettre un terme à la présence française militaire pour son manque d'efficacité, pour sans doute certains comportements des militaires, pour aussi satisfaire une demande récurrente, naissante de la population locale. Face au comportement des militaires français et leur peu d'efficacité face à une situation complexe aux frontières et à ces contrebandes, ces trafics dans lesquels une armée ne peut pas lutter. C'est sur d'autres moyens qu'il faut lutter contre les contrebandes.
Monsieur Luc Michel, je vous prie.
Mais la concurrence, en fait, elle est américaine. On a le Maroc qui était le principal allié des Français et qui maintenant est dans une situation diplomatique exécrable avec la France. Le Maroc a basculé dans le camp américain suite aux accords d'Abraham. C'est la même chose au Mali. Au Mali, les Américains ont introduit les remplaçants des Français. Il y a maintenant une base américaine, une base espagnole et une base allemande, et plus seulement les Français. Donc les Français, évidemment, ils sont éjectés pays par pays et ça va continuer.
Ça va continuer complètement, M. Luc Michel, de toute l'Afrique, à votre avis?
Pensez de son présent que dans l'Afrique sahélienne et dans en Afrique du Nord et dans la Corne de l'Afrique et dans le golfe de Guinée, ce sont les quatre régions du pays. Dans ce pays-là, il y a réellement une aide anti-française qui est partagée par les populations et par les dirigeants. Les chefs d'État savent qu'ils ont le soutien de leur population et que ce soutien ne leur est acquis qu'à condition qu'ils soient entre Français. Je crois donc que les Français vont dégager de ce qu'on appelait le précaré français et ensuite ils dégageront ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on dit le précaré français? Il faut se rappeler d'où vient cette notion historique. C'était le nom que Louis XIV donnait aux possessions françaises, voici de la France, à une époque où la France était la superpuissance européenne. C'est ça le précaré français. C'était les possessions françaises pour les Pays-Bas et l'Espagnol qui vont devenir la Belgique et les Pays-Bas, en Alsace-Lorraine et en France du Nord. Aujourd'hui, évidemment, ce précaré français n'existe pas. Ça sera la même chose en Afrique.
Monsieur Bernard Cornu, vous aurez le dernier mot dans cette émission. Allez-y, je vous prie.
Je pense qu'il y aura quand même des mouvements qui seront modérés par la forte présence africaine en France aussi, où des cadres sont nombreux pour étudier, pour former, et gardent des liens humains, disons, et technologiques avec la France. Donc je ne pense pas que cette éviction sera si rapide ou si totale que monsieur, que votre invité peut l'affirmer. Et de plus, on ne peut pas prévoir toujours l'avenir. Je crois qu'il faut observer, il faut réagir. Mais je ne pense pas que ce sera si rapide et si complet que ceci.
Absolument. Monsieur Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue depuis Vaucluse, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à Monsieur Luc Michel, géopoliticien, qui a gentiment accepté notre invitation depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
le sud mondial, des monnaies adossées alors pour remplacer le dollar américain. L'adoption par le sud mondial de monnaies adossées à des produits de base pourrait mettre fin à la domination du dollar américain et uniformiser les règles du jeu dans le commerce international. Commençons par trois faits interdépendants induits par la multipolarité. Premièrement, l'une des principales conclusions du Forum économique mondial de Davos en Suisse est que le ministre saoudien des Finances, Mohamed Al-Jadan, lors d'un débat sur la transformation de l'Arabie saoudite, a clairement indiqué que Riyad envisagera d'effectuer des transactions dans des monnaies autres que le dollar américain. Le pétro-yuan est-il donc enfin à portée de main? C'est possible, mais Al-Jadan a sagement opté pour une couverture prudente. Nous entretenons une relation très stratégique avec la Chine et nous entretenons la même relation stratégique avec d'autres nations, dont les Nations Unies, et nous voulons développer cette relation avec l'Europe et d'autres pays. Deuxièmement, les banques centrales d'Iran et de Russie étudient l'adoption d'une monnaie stable pour les règlements du commerce extérieur en remplacement du dollar américain, du rouble et du rial. La foule des crypto-monnaies est déjà sur les dents et étudie les avantages et les inconvénients d'une monnaie numérique de banque centrale, CBDC, adossée alors pour le commerce, qui sera en fait imperméable au dollar américain. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que cette monnaie numérique adossée alors serait particulièrement efficace dans la zone économique spéciale d'Astrakhan dans la mer Caspienne. Astrakhan est le principal port russe participant au corridor international de transport sud-nord, INTSC, la Russie traitant les cargaisons traversant l'Iran dans des navires marchands jusqu'en Asie occidentale, en Afrique, dans l'océan Indien et en Asie du Sud. Le succès de l'INTSC, progressivement lié à une CBDC adossée alors, dépendra en grande partie du refus d'un grand nombre de nations asiatiques, ouest-asiatiques et africaines d'appliquer les sanctions imposées par les États-Unis à la Russie et à l'Iran. À l'heure actuelle, les exportations sont principalement constituées de produits énergétiques et agricoles. Les entreprises iraniennes sont le troisième importateur de céréales russes. Viendront ensuite les turbines, les polymères, les équipements médicaux et les pièces automobiles. La section Russie-Iran de l'INTSC représente à elle seule une activité de 25 milliards de dollars. Et puis, il y a l'aspect énergétique crucial de l'INTSC, dont les principaux acteurs sont la triade Russie-Iran-Inde. Les achats de brut russe par l'Inde ont augmenté d'année en année d'un facteur énorme de 33. L'Inde est le troisième importateur mondial de pétrole. En décembre, elle a reçu 1,2 million de barils de Russie, qui se positionne depuis plusieurs mois devant l'Irak et l'Arabie saoudite comme le premier fournisseur de la Nouvelle Delhi. Troisièmement, l'Afrique du Sud assure cette année la présidence tournante des BRICS. Et cette année marquera le début de l'expansion des BRICS+, avec des candidats allant de l'Algérie, l'Iran et l'Argentine à la Turquie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, vient de confirmer que les BRICS souhaitent trouver un moyen de contourner le dollar américain et de créer ainsi un système de paiement plus juste et non biaisé en faveur des pays les plus riches. Depuis des années, Yaroslav Lisovolik, chef du département analytique de l'activité entreprise et investissement de la banque russe Sberbank, est un partisan d'une intégration plus étroite des BRICS et de l'adoption d'une monnaie de réserve des BRICS. Lisovolik nous rappelle que la première proposition de créer une nouvelle monnaie de réserve basée sur un panier de devises des pays des BRICS a été formulée par le club Valdei dès 2018. Êtes-vous prêt pour le R5? L'idée initiale tournait autour d'un panier de devises similaires au modèle des droits de tirage spéciaux, DTS, composé des monnaies nationales des membres des BRICS. Puis, plus loin dans le temps, d'autres monnaies du cercle élargi des BRICS+. Yaroslav Lisavolik, chef du département analytique de l'activité entreprise et investissement de la banque russe Sberbank, explique que le choix des monnaies nationales des BRICS était logique, car ces monnaies sont parmi les plus liquides sur les marchés émergents. Le nom de la nouvelle monnaie de réserve, R5 ou R5+, est basé sur les premières lettres des monnaies des BRICS, qui commencent toutes par la lettre R. Rial, rouble, roupie, renminbi, rand. Les BRICS disposent donc déjà d'une plateforme pour leur délibération approfondie en 2023. Comme le note Lisavolik, à plus long terme, la monnaie R5 des BRICS pourrait commencer à jouer le rôle de règlement paiement ainsi que de réserve de valeur réserve pour les banques centrales des économies de marché émergentes. Il est pratiquement certain que le yuan chinois occupera une place prépondérante dès le début, profitant de son statut de réserve déjà avancé. Parmi les candidats potentiels qui pourraient faire partie du panier de devises R5+, figurent le dollar de Singapour et le dirham des Émirats arabes unis. D'un point de vue diplomatique, Lisavolik soutient que le projet R5 peut ainsi devenir l'une des plus importantes contributions des marchés émergents à la construction d'un système financier international plus sûr. Le projet R5 ou R5+, recoupe ce qui est en train d'être conçu au sein de l'Union économique eurasiatique sous la direction du ministre de la macroéconomie de la Commission économique eurasienne, Sergueï Glazyev. Dans son article le plus récent, Rouble d'or 3,0, Glazyev fait directement référence à deux rapports désormais célèbres du stratège du Crédit Suisse, Zoltan Poddar, anciennement membre du FMI, du département du Trésor américain et de la Réserve fédérale de New York. Guerre et encombrement des matières premières, 27 décembre, et guerre et politique monétaire, 29 décembre. Poddar est un fervent partisan d'un Bretton Woods 3, une idée qui a fait son chemin parmi les sceptiques de la Fed. Ce qui est assez intriguant, c'est que l'Américain Poddar cite directement le Russe Glazyev et vice-versa, ce qui implique une convergence fascinante de leurs idées. Commençons par l'accent mis par Glazyev sur l'importance de l'or. Il note l'accumulation actuelle des soldes en espèces de plusieurs milliers de dollars sur les comptes des exportateurs russes en monnaie douce dans les banques des principaux partenaires économiques étrangers de la Russie. Les pays de l'Union eurasiatique, la Chine, l'Inde, l'Iran, la Turquie et les Émirats arabes unis. Il explique ensuite comment l'or peut être un outil unique pour lutter contre les sanctions occidentales si les prix du pétrole et du gaz, des aliments et des engrais, des métaux et des minéraux solides sont recalculés. Fixer le prix du pétrole en or au niveau de 2 barils par 1 gramme donnera une deuxième augmentation du prix de l'or en dollars, a calculé le stratège du Crédit Suisse, Zoltan Poddar. Ce serait une réponse adéquate au prix plafond introduit par l'Occident, une sorte de plancher, une base solide. Et l'Inde et la Chine pourraient prendre la place des négociations mondiales de matières premières à la place de Glencore ou Trafigura. Nous voyons donc ici une convergence entre Glazyev et Poddar. De nombreux acteurs majeurs à New York seront stupéfaits. Glazyev expose ensuite la voie vers le rouble d'or 3,0. Le premier étalon or a fait l'objet des pressions de la part des Rothschild au 19e siècle, ce qui leur a donné l'occasion de subordonner l'Europe continentale au système financier britannique par le biais de prêts en or. Le rouble d'or 1,0, écrit Glazyev, a fourni le processus d'accumulation capitaliste. Le rouble d'or 2,0, après Bretton Woods, assurait une reprise économique rapide après la guerre. Ce que Glazyev propose maintenant, c'est que la Russie augmente l'extraction de l'or jusqu'à 3% du PIB, la base d'une croissance rapide de l'ensemble du secteur des matières premières, 30% du PIB russe. En devenant un leader mondial de la production d'or, le pays obtient un rouble fort, un budget solide et une économie forte. Amis auditeurs, c'est tout pour cette semaine. La prochaine fois, nous vous présenterons la suite de cette analyse. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.